Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale. Et bien aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel puisqu'il s'agit du grand maître international Laurent Fraissinet. Salut Laurent.
Bonjour Stéphane.
Alors, grand maître international, Laurent, depuis combien de temps ?
Depuis l'année 2000, donc ça fait maintenant quasiment 14 ans.
14 ans, hein, donc belle carrière déjà de grand maître. Évidemment, maître avant, parce que ça, on passe par maître avant de devenir grand maître.
Maître, j'ai dû l'être en 1998, donc j'étais assez jeune, donc je suis devenu assez rapidement...
Ouais, t'es passé vite de maître à grand maître.
Et ensuite, j'ai eu 2600 l'année d'après, en 2001.
D'accord.
Donc 2600 qui est considéré comme... un grand maître amélioré, je dirais.
Oui, ah oui, derrière 2600, on est déjà presque super grand maître, puisqu'entre maître et grand maître, il y a 100 points d'écart en général, c'est 2400-2500. Donc 2600, c'est encore une classe au-dessus. Puis voilà, 2700, c'est encore autre chose. Mais on va y revenir, parce que, alors, évidemment, on va passer toute une émission avec toi, et on va revoir ben, en fait, tous les grands points de ta carrière, et puis aussi quelques-uns de tes avis éclairés sur le monde du jeu d'échecs, à la fois... Ben, planétaire, mais aussi francophone et français en particulier. Et d'abord, on va parler de toi en long et en travers, puisqu'on va d'abord parler de ta carrière, tes débuts dans le jeu d'échecs, alors et comment tu es venu aux échecs et comment tu es arrivé maintenant à être un des tout meilleurs joueurs du monde. Voilà, alors comment ça s'est passé? Alors je crois que d'abord tu es originaire de Dax. Hein,
Je suis originaire de Dax. J'ai commencé, j'ai raconté l'histoire souvent, mais j'ai commencé à jouer aux dames avec mon grand-père en vacances. Voilà, il trouvait que j'avais le sens du jeu. Et on a cherché un club de dames à Dax et il n'y avait pas. Et mes parents qui ne jouaient ni aux dames ni aux échecs pensaient que les dames ressemblaient beaucoup aux échecs. Et donc je suis allé à ce club d'échecs, ça m'a tout de suite plu. Une personne m'a prise en charge là-bas, c'est Alain Mora, qui est maintenant à Nîmes, qui m'a appris à jouer aux échecs, donc je passe bonjour s'il nous écoute. Et donc ça m'a plu tout de suite, j'ai accroché. J'ai pas eu de très bons résultats, très vite, parce que je me rappelle mon premier championnat des Landes, même championnat départemental, donc j'ai fini 7e.
Mais c'était quel âge ça ?
C'était à 10 ans, ça devait être en 91. Ouais, je suis né en 81, donc c'était à 10 ans, donc j'étais pas du tout précoce. Et donc j'ai eu du mal à... Et l'année d'après, j'ai réussi à me qualifier pour le championnat de Ligue et le championnat de France, où j'ai encore fait un mauvais résultat. J'ai dû finir 30e ou quelque chose comme ça. Et ensuite, en 93, c'est là où j'ai fait mon premier résultat, donc j'ai gagné le départemental et la Ligue assez facilement. Et j'ai été vice-champion de France.
Donc quelle catégorie ça, donc ?
C'était en moins de 12 ans. En moins de 12 ans, donc c'est pupille.
Ouais.
Pupille, donc en 93, voilà. Et j'ai participé à ma première compétition internationale, donc au championnat d'Europe, qui était en Hongrie, à Zombatelli, je me rappelle. Et j'ai fini dans les 10 premiers, donc c'était un bon résultat.
Oui, c'est pas mal, hein, dans les 10 premiers d'Europe, passer 3 ans de compétition à peine, c'est quand même bien.
Oui, c'était un excellent résultat. Et après... donc l'année d'après, en 94, j'ai été vice-champion de France jeune et je suis encore allé au championnat d'Europe où j'ai fait un résultat à peu près similaire à celui de l'année précédente. Et ensuite, vraiment, en 95, ça a marqué le début d'un certain succès chez les jeunes. J'ai gagné le championnat de France pour la première fois. Et ensuite, j'ai fini 3e au championnat d'Europe, qui était en juillet, où j'ai battu notamment quelqu'un qui est assez connu maintenant, c'est Levon Aronian.
Ah oui, bah oui.
Donc je l'ai battu une belle partie avec les Noirs en 25 coups. Même maintenant, je suis assez content de cette partie.
Il s'en souvient encore.
Oui, il m'a parlé, c'est amusant parce qu'il m'a parlé, il m'a battu dans un tournoi, il y avait un match en France-Arménie en 2009,
ouais.
C'était 14 ans plus tard. Et il m'a battu, et il m'a dit, bon, c'était par rapport à ce que tu m'avais fait à cette époque-là, c'était mérité. Voilà, bon, c'était amical, évidemment. Mais il s'en souvenait évidemment.
Ouais, ça marque quand on est jeune, bien sûr, ça marque.
Ouais. Et la même année, après être 3e au championnat d'Europe, j'ai terminé donc vice-champion du monde des moins de 14 ans.
Alors là, donc t'es en catégorie quoi? T'es en...
Là, je suis en moins de 14 ans, donc c'est en benjamin.
En benjamin. Et en là, donc alors champion de France, alors champion départemental.
Non, parce que là j'étais qualifié directement pour le championnat de France vu mes derniers résultats.
Ah oui, voilà. D'accord. Donc les derniers champions. Donc champion de France.
Champion de France.
Donc benjamin.
Voilà.
Troisième au championnat d'Europe.
Troisième au championnat d'Europe.
Et vice-champion du monde.
Vice-champion du monde.
Donc le podium, quoi. Deux podiums, en fait.
Voilà, deux podiums la même année.
Ouais.
Voilà, donc là, ça a vraiment...
Au Brésil, hein.
C'était au Brésil, oui, tout à fait. Ouais. Ça a vraiment commencé. Après, j'ai eu quelques années Un peu plus difficile chez les jeunes, même si je continue ma progression, et j'étais quasiment au 96-97, voilà, j'étais maître en 98, mais j'avais déjà aux alentours de 2400. Et chez les jeunes, en 96 et 97, j'ai pas fait de résultats exceptionnels au championnat du monde. J'ai dû, je sais pas, aux alentours de la 10e place ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et c'est finalement en 1998, j'ai décidé, voilà, c'est là où j'ai gagné, donc j'ai gagné à 16 ans. J'avais pas encore 17 ans, j'ai gagné mon premier championnat de France junior cette fois. Voilà, je me suis surclassé chez les juniors parce que j'avais 2450, donc j'étais quand même le meilleur élo du tournoi.
Tu es surclassé, ça veut dire que tu étais le plus jeune, c'est ça?
T'étais c'est-à-dire
plus
que jeune j'étais en fait, je pouvais jouer en moins de 16.
Donc en cadet quoi.
Non, en moins de 18, en moins de 18. Voilà, je pouvais jouer en cadet, j'ai joué en junior. Voilà,
voilà,
j'ai joué en junior pour avoir le titre de champion de France junior, ouais. Qui à l'époque qualifiait aussi pour le championnat de France, le national, le tournoi fermé à 16 joueurs. Voilà,
ah oui, le champion de France junior voilà, était qualifié.
Parce que c'est vrai que le championnat de France junior est quand même beaucoup moins fort en ce moment. Il y a une dizaine d'années, c'était Bacro. C'était Fontaine, enfin, c'était des joueurs qui méritaient leur place largement, très largement même, dans le national. Donc voilà, j'ai gagné en 98, et donc du coup, j'ai pas pu faire le championnat à ma catégorie, donc j'ai joué en junior, en moins de 20 ans. Donc là, c'était un peu difficile, même si j'ai joué à table 1 quand même, après 8 rondes, mais malheureusement, j'ai mal terminé le tournoi, et j'ai pas très bien terminé, 15-20e, je sais pas exactement. Et finalement, en 99, j'ai joué aussi en moins de 20 ans, donc j'ai regagné pour la deuxième fois le championnat de France junior. En me surclassant, j'étais encore cadet, mais cette fois j'ai réussi à jouer en moins de 18 ans, le champion du monde moins de 18 ans, et j'ai terminé second de ma catégorie. Voilà, donc vice-champion du monde en Espagne.
Encore double quoi.
Voilà, avec des joueurs comme Valero, Dominguez, enfin des joueurs très connus.
C'était
voilà.
Qui avait gagné à l'époque?
C'était Kokarev, qui est un grand maître russe maintenant qui doit avoir 2650, quelque chose comme ça.
D'accord.
Voilà, le troisième était Posny, donc là, à ce niveau-là. En moins de 18 ans, on retrouve que des joueurs maintenant très connus. Enfin, Posny, il n'est pas très connu, mais bon, c'est un joueur israélien qui a 2650, donc c'est un bon joueur.
Bah, c'est sûr que là, en junior, si on arrive dans les 10 meilleurs mondiaux en junior, il y a de grandes chances qu'on puisse faire une carrière professionnelle.
Oui, tout à fait. Surtout que la plupart sont déjà grands maîtres.
Ouais, la plupart sont déjà grands maîtres.
Sont déjà grands maîtres.
Ce qui est déjà un signe de professionnalisation. Il n'y a pas beaucoup de grands maîtres amateurs. Il y en a, hein, mais très peu.
Oui, c'est très rare, c'est vrai.
En France, on peut citer Jean-René Corr.
Il n'est pas grand maître, en l'occurrence.
Il n'est pas grand maître?
Non, il n'est pas grand maître. Je crois qu'il n'a pas fait sa dernière norme, non.
Il lui manque une norme, alors.
Oui, il lui manque une norme, je crois.
Il n'a pas fini.
Non, il n'a pas fini.
À vérifier, quand même, hein, parce que...
Je suis sûr.
Doute.
Je suis
sûr. D'accord. Donc, voilà, la preuve que c'est difficile.
Oui.
Parce que c'est pas forcément la portée d'un amateur. Maître, il y en a plus, des amateurs. Maître, c'est un peu plus accessible.
Et malheureusement, donc, j'ai dû arrêter ma... J'ai pas rejoué de champion du monde junior. Parce que ça tombait mal à chaque fois. C'est un peu dommage, je regrette un petit peu, j'aurais dû aller. Ça tombait toujours au mois d'août où je jouais le championnat de France, adulte.
Ouais.
Et donc je privilégiais ce tournoi par rapport au championnat du monde junior, ce qui est un peu, avec le recul, finalement, le championnat de France adulte, ça fait 15 ans que je joue.
Ouais.
Chaque année, donc, et le championnat du monde junior, malheureusement,
et oui.
J'aurais peut-être dû... mais c'est vrai que...
Donc tu conseillerais à un jeune qui aurait l'opportunité de choix, de dire bah, finalement, championnat du monde junior...
De privilégier les championnats jeunes, parce que finalement...
On peut jouer deux fois dans sa vie.
Ouais, on s'en rend pas compte à cet âge-là, mais ça passe, et après on regrette un peu. Surtout que j'étais à l'époque, en 2001, j'avais donc 2600, et j'étais numéro 4 mondial junior. Donc, si ça se trouve, j'aurais joué ce tournoi, j'aurais été premier elo, parce que les meilleurs elo, je jouais pas toujours. Enfin, j'avais une vraie chance de gagner le titre, et le titre de champion du monde junior, c'est quand même... C'est quelque chose. Même sur un tournoi, je dis pas que j'aurais gagné, mais j'aurais dû quand même tenter.
Mais t'avais une belle chance de le faire, donc c'est dommage de la gâcher, disons. Voilà.
Ouais,
c'est indépendamment du résultat possible. D'accord, donc ça c'est la carrière, tu as mis fulgurante hein, comme ça. Et à ce moment-là, en fait, tu décides d'abandonner les études aussi, non?
Oui, très tôt.
Parce que là, tu fais un peu comme un Joël Lautier, c'est-à-dire que quand il y a un moment donné, on doit se décider.
Oui,
parce
voilà,
qu'après
exactement.
Les études, arriver au niveau
non,
du bac.
C'était pas possible, j'aurais raté 4 mois dans l'année. En fait,
voilà, donc ça devenait.
Même pas l'énergie de rattraper les cours, ça devenait trop compliqué. Donc, de toute façon, j'avais décidé de.
Alors, en fait,
c'est même pas une décision, c'est-à-dire c'est venu tellement naturellement.
Ouais.
Que. Plus ce goût de liberté, c'est vrai que c'est bien quand on joue aux échecs et quand on est jeune, finalement on fait ce qu'on veut, on va au tournoi où on veut, c'est très agréable comme vie.
Ouais.
Et en plus, le jeu me plaît.
Et puis jouer aux échecs, c'est pas tout à fait non plus arrêter ses études parce qu'il faut continuer à étudier les échecs.
Bien sûr.
Donc il faut lire, il faut savoir lire correctement et puis on étudie aussi l'histoire, un peu du jeu, on étudie tout un tas de choses autour. Donc on n'arrête pas d'étudier quand on joue aux échecs. Hein. Et puis on fait travailler évidemment. Ces neurones cognitifs. Hein. Donc, je crois que d'ailleurs, t'as assisté dernièrement à la présentation sur l'intérêt de,
du
jeu d'échecs
de
Stéphane Chabanel.
Stéphane Chabanel, oui, c'était la mairie du 3e, c'était très intéressant.
Pour les activités.
La psychologie cognitive. Non, mais c'est très intéressant, le processus, parce qu'il m'avait un petit peu parlé avant, pour avoir l'avis d'un peu tout le monde, c'est-à-dire d'experts et aussi de forts joueurs, pour savoir comment se fait le processus de décision. Et c'est vrai que, finalement, on ne se pose pas la question en ces termes en tant que joueur. On essaie d'améliorer les finales, les ouvertures, mais c'est vrai que le processus de décision pendant la partie, il est tellement naturel qu'on ne se pose pas la question, et c'est intéressant de voir comment ça se passe, d'approfondir ça pour éventuellement améliorer ce processus.
Et puis de voir comment dans d'autres activités, on va retrouver ce processus.
Et il n'y a jamais eu d'étude vraiment très sérieuse qui a été faite à ce niveau-là.
Celle de Michel Noir quand même qui est assez sérieuse. Parce qu'elle a été faite, c'est une thèse de doctorat, donc elle a été contrôlée par des docteurs d'université, donc c'est pas n'importe qui. Hein. Et donc il a suivi un processus, disons, de validation.
Sur le jeu d'échecs aussi.
Sur le jeu d'échecs. Okay, la thèse de Michel Noir, qui est un des travaux les plus sérieux sur le sujet. Il y en a d'autres, je crois qu'il y en avait un de prévu en Corse aussi d'ailleurs, mais j'ai pas de nouvelles. Donc, donc là on arrive, là tu te décides vraiment là, de continuer ta carrière en tant que vraiment professionnel, parce que jusqu'à tant qu'on est jeune, bon, on peut encore hésiter. Et là, tu te propulses grand maître. T'es content en ce moment.
Tout à fait, grand maître en équipe de France aussi.
Et en équipe de France.
Depuis 99, finalement. Ça fait quand même un bout de temps.
T'as 18 ans, quoi, là, ce moment.
Oui, j'ai joué la première partie en équipe de France le jour de mes 18 ans, le 30 novembre 99.
Ouais. Et alors après, quels sont les grands moments marquants alors jusqu'en 2014, entre 99 et 2014, est-ce que dans cette période-là, tu vas noter quelques vraiment grands moments, grands événements qui t'auront marqué particulièrement, grands tournois, grands résultats.
Bien sûr, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup aussi de moments assez douloureux où on a envie de tout arrêter. Mais par exemple en 2001, quand on était vice-champion d'Europe avec l'équipe de France, ça c'est un grand moment. Ensuite, pour continuer à l'équipe de France, on a en 2005 fini 3e au championnat d'Europe aussi, et on a battu pour la première fois de l'histoire, c'est très symbolique, mais on a battu la Russie. On a battu la Russie en 2005 pour la première fois de l'histoire, et en 2006.
Ouais, c'est vrai.
En 2006 aux Olympiades, en 2005, on peut dire que l'équipe était un peu affaiblie, mais en 2006, l'équipe était composée de Kramnik, Morozevich, Grichuk et Rublevski et Bariev comme remplaçant.
C'est du lourd, quoi.
Quelque chose comme ça. Donc on a réussi à les battre pour la première fois de l'histoire, et ça c'est vrai que c'est des moments.
Oui.
On a fini 6e à ces Olympiades. Bon, on a fait un très bon tournoi, on a un peu craqué sur la fin, c'est dommage. Mais voilà, tout est possible. Finalement, si on demandait aux gens dans la rue s'ils pensent que c'est possible que la France batte la Russie aux échecs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui répondraient oui. Et
oui,
pourtant,
parce que,
c'est arrivé.
Ouais, ouais.
Et voilà, donc ça c'est... Après, il y a eu d'autres moments par équipe, notamment il y a eu Nauchess Club qui s'est fait, et donc on a gagné 2 titres de champion d'Europe.
Mais d'ailleurs, à ce moment-là, on pouvait se dire de l'extérieur que finalement Laurent Frayssinet était plus un joueur d'équipe qui a réussi d'exceptionnels résultats qu'un joueur individuel, puisque tu collectionnais les titres de second. Hein, vice-champion du monde, comme tu l'as dit plusieurs fois, etc. Et en équipe, tu arrivais à réaliser des exploits tout à fait.
Il faut avouer que la vie de joueur professionnel, finalement, même maintenant, je joue beaucoup par équipe. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est les équipes qui finalement emploient, qui proposent le plus de tournois et le plus d'opportunités. Donc j'ai 8 titres de champion de France par équipe. Il peut paraître.
Ouais.
J'ai seulement 32 ans, donc.
C'est déjà
pas mal. J'ai gagné à peu près tous les championnats dans lesquels j'ai participé. J'ai gagné en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, même en Belgique. Donc j'ai gagné beaucoup de championnats, probablement 6 ou 7. Donc ça fait partie. Et 2 Coupes d'Europe avec Nao, qui avait non seulement. Il y avait une équipe extraordinaire avec Zwidler, Grichuk, on apprend beaucoup de.
Oui, alors faut expliquer.
C'est très...
faut expliquer ce que tu viens de nous dire en fait aux auditeurs, c'est qu'effectivement on le sait pas forcément, mais les grands maîtres aujourd'hui en Europe peuvent faire plusieurs championnats nationaux en même temps. C'est-à-dire, on peut très bien jouer pour un club français, alors pas pour un second club français, mais pour un club espagnol en même temps, voire un club allemand. Et aussi un club anglais. Il n'y a pas de restriction.
La seule restriction, c'est qu'évidemment, il faut choisir un club pour la Coupe d'Europe. Donc ça, c'est évident. Vu qu'il y a une seule Coupe d'Europe, on ne peut pas jouer. Donc il faut privilégier, il faut donner son club de référence.
Et puis si les dates se chevauchent, il faut faire des choix.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc,
donc ça, c'est un peu particulier quand même.
Ouais, c'est un peu particulier, c'est vrai. Donc voilà, pas mal de titres par équipe et donc quelques titres individuels. C'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai gagné beaucoup, pas mal de rapides, donc des grands prix, voilà, notamment tu as organisé Aix-en-Provence, voilà, où j'avais gagné toutes mes parties d'ailleurs. C'était une particularité, moi, j'ai gagné 2-0 en quart de finale, demi et finale, donc c'était assez sympathique. Le Grand Prix du Sénat aussi, où tu organisais, voilà, avec contre j'ai battu Joël Lottier en demi-finale et Boris Spassky en finale, voilà, donc ça c'est un grand souvenir.
Oui, parce que quand même, t'as battu un champion du monde.
Oui. J'ai eu la grande chance, j'ai joué contre Karpov, contre Kramnik, contre Spassky.
Ouais.
Donc j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, à même à Nantes.
Évidemment, c'est pas le Spassky de 69.
Non, bien sûr, mais quand même, il a.
Il lui restait de beaux restes.
Ouais. Et j'ai eu de la chance aussi, d'ailleurs, puisqu'on parle de Spassky, à travers Nao, de bénéficier de quelques stages un peu plus tard, après que je l'ai battu, 2 ans plus tard, je pense que c'était en 2003-2004, où j'ai bénéficié de quelques stages avec Spassky, c'était très intéressant. Il me parlait un peu de sa carrière, un petit peu comme on le fait là. On peut évidemment regarder un peu les échecs, mais surtout il partageait son expérience, c'était très intéressant. Donc j'en garde un excellent souvenir. Et voilà, et donc plus récemment, donc j'ai gagné, j'ai eu 2 titres de vice-champion de France individuel en 2004 et 2006.
Ouais, c'est déjà pas... Mais encore une fois, le Laurent Frécy, il est toujours second, c'est-à-dire c'est le pouli d'or un peu, hein, c'est-à-dire 2 fois vice-champion du monde, maintenant 2 fois vice-champion de France en adulte.
Ouais, alors, particulièrement évidemment... en 2006 où je menais tout le tournoi, où j'ai perdu finalement le match de départage face à Vlad Kachev.
Ouais.
Donc ça, c'était dommage. Et ensuite, finalement, en 2010, j'ai finalement réussi à vaincre...
En départage,
face à Romain Edouard.
Ouais, qui montait beaucoup à ce moment-là.
Oui, oui, bien sûr, mais qui est toujours très bon, qui est un membre de l'équipe de France. Donc voilà, je l'ai battu en 2010. Et ça a été un peu un déclic, parce que tout de suite, j'ai eu 2700 Elo derrière. Voilà, juste avant, j'ai gagné le tournoi à Pamplune. Ouais, j'ai gagné quelques tournois aussi.
Ouais, en plus, c'était un Open cette fois, c'est ça?
Non, c'était un tournoi fermé, avec notamment une victoire contre Morozevic à la dernière ronde.
Ouais, donc, c'est pareil.
C'était assez sympathique. Et voilà, donc j'ai eu mon premier classement à plus de 2700. Et donc ensuite, en 2012, j'étais... bon, je récapitule les plus grands titres. Donc j'ai été vice-champion d'Europe, voilà, où j'étais encore en tête...
En individuel, hein.
En individuel, oui. J'étais en tête avant la dernière ronde avec un demi-point d'avance, mais j'ai perdu cette dernière ronde.
Ah oui, c'est vraiment dommage. C'était terrible.
C'est vraiment dommage.
Quand on est supporter de Laurent Frécy, il ne faut pas être cardiaque à la dernière ronde.
Hein. C'est bon, ça arrive. Non, mais c'est-à-dire que... On en parlait tout à l'heure hors antenne de Vishkanzi aussi en 2004, où j'ai fini, où j'ai perdu la dernière ronde une fois de plus. Mais pas si souvent en fait. Mais les gens m'en parlent, ah ouais, c'est incroyable, tu perds toujours la dernière ronde. Mais en fait, en 2004, la dernière ronde, j'ai perdu contre un joueur qui s'appelle Nakamura.
Oui.
Et j'avais les noirs. Donc bon, c'est une partie que j'aurais joué au milieu du tournoi, peut-être j'aurais perdu aussi.
Ouais.
C'est pas non plus, j'ai pas l'impression de m'écrouler dans la dernière ronde. J'ai perdu contre Yakovenko, qui est un excellent joueur, qui avait été numéro 5 mondial avec 2760. Donc je perds pas contre non plus bon, évidemment peut-être il y a un petit problème à ce niveau-là, mais bon.
Non, mais c'est sûr aussi que moi aussi j'ai d'ailleurs, je pense que j'ai aussi cette manie, ça m'a bon, évidemment pas au niveau des professionnels dans les tournois que je fais, mais il y a un fait qu'il faut accepter aussi, que m'avait fait remarquer un président de club que j'avais à Bordeaux, Fouad Magrabi pour pas le citer. Il m'avait dit, mais écoute, c'est normal, tu te plains de dire, mais en fin de tournoi, tu joues contre des joueurs forts.
Bien sûr.
Parce qu'on joue.
Non, mais là, en l'occurrence, c'est un tournoi fermé à Vishkanzi.
Ah oui, d'accord. Donc là, c'est
pareil. Ça change rien. Mais le tournoi était très dur. Parce que
sinon, en général, c'est vrai aussi qu'en fin de tournoi, si on fait un Open par exemple, on joue forcément contre quelqu'un qui a le même nombre de points que soi. Donc c'est au moins un joueur aussi fort que soi, si ce n'est plus. Donc c'est forcément plus difficile à la fin qu'au début.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc j'ai gagné, et finalement, j'ai gagné, je pense, le meilleur tournoi de ma vie. De très loin, au Mind Games, voilà, en Chine, où j'ai gagné, même si c'était en partie rapide, c'est du 25+10, mais j'ai fait un tournoi comme je n'osais pas en rêver, où j'ai battu voilà, en 7 parties, donc j'ai battu Mamediarov, Karjakin à la dernière ronde, cette fois, donc j'ai battu Karjakin à la dernière ronde, très important,
ouais.
Et avant j'avais battu donc Mamediarov, Giri et Nakamura. Voilà,
donc, revanche.
Un tournoi revanche, voilà. Et des nuls avec Grichuk, Ding et Kamsky. Voilà. Donc j'ai fait 5,5 sur 7 dans un tournoi où, sur 16 joueurs, par exemple, Aronian a fini avant-dernier. Donc pour situer le niveau du tournoi. Donc j'ai gagné ce rapide. Et voilà, ça c'était clairement de très loin. Voilà, c'est les World Mind Games, c'est à Pékin chaque année.
Et, ils ont lancé ça maintenant, ils
vont le faire chaque année. Ils font ça avec le bridge, le go, les dames, tous les jeux de l'esprit.
Un peu comme le festival des jeux de Cannes.
Voilà,
de Cannes,
c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée.
Un regroupement, quoi.
Et voilà, donc j'ai gagné ce tournoi-là en rapide, j'ai fini 3e en blitz, ce qui était quand même une excellente performance.
Et comment tu juges là, ces performances? On va finir après cet aspect historique, et puis après en deuxième partie, on reviendra plus sur ton actualité, je dirais, immédiate. Mais comment tu juges ces résultats avant de finir cette carrière? Est-ce que tu penses que c'est dû pour toi à une meilleure forme physique, c'est un mélange de plusieurs choses? C'est quoi le facteur déterminant pour gagner un tournoi? La forme doit jouer, bien sûr, mais...
Oui, bien sûr, mais c'est avant tout la motivation, je crois. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est... Quand j'ai été invité à ce Mind Games, j'étais très motivé, parce que c'est une occasion très rare pour moi de jouer ces meilleurs joueurs. Parce qu'il n'y a pas de... Finalement, on viendra après, mais il n'y a pas de tournoi de haut niveau en France, à part l'année dernière, où il y a eu, un peu miraculeusement, on ne sait pas d'où c'est venu. Enfin, si, on sait. On les remercie d'ailleurs, les mécènes russes... Voilà, maintenant Andrei Filatov qui est président de la Fédération russe.
Oui, pour le mémorial à l'équipe.
Voilà, et son acolyte, monsieur Timoshenko. Voilà, donc c'est... Il y a très peu de tournois en France. Et donc cette occasion que j'ai eue au World Mind Games, parce que j'ai augmenté mon elo à ce moment-là, et donc je faisais pratiquement... J'étais 22e joueur, ou quelque chose comme ça, 22e joueur mondial. Voilà, donc je voulais absolument, même si c'était du rapide, et des blitz, profiter de cette opportunité. Je me suis préparé très sérieusement et voilà, donc j'étais en grande forme et surmotivé, alors que pour les autres c'est un peu moins, c'est du rapide, du blitz, ils jouent toute l'année ensemble, donc finalement c'est un petit peu c'est pas les vacances, mais disons que c'est un peu moins important qu'un tournoi comme l'Inares.
C'est un peu plus relâché, quoi.
Voilà, un peu plus relâché. Donc j'ai profité de cette occasion pour...
Donc meilleure motivation pour toi et un peu moindre pour les autres qui n'ont pas vu le loup venir, en fait.
Voilà, ce qui est logique, ce qui est comme ça, je suppose, dans tous les sports, comme au tennis, les premiers tours, voilà, où il peut y avoir plus de surprises.
Oui, bien sûr. Et alors, donc, on arrive aux dernières années de ta carrière, là, puisque ça, c'était
2012, voilà.
2012, donc...
Et donc, en 2013, donc, voilà, ce Memorial Aikin, où j'ai battu notamment Vladimir Kramnik.
Donc, t'as battu le gars qui a battu Kasparov, voilà, quoi.
En style, en plus, j'ai reçu, c'était un Memorial Aikin, donc j'ai reçu le prix de la partie jouée dans le style d'Aikin, donc ce qui fait vraiment très plaisir.
Oui.
Voilà, c'est la partie jouée dans le style d'Aikin.
C'est vrai que c'est une partie tendue, puis c'est un sacrifice de pièces.
Voilà, il y a un sacrifice de pièces très rapidement. J'ai les pions qui... Enfin, c'était une partie... une partie où le style était là. Enfin,
c'était crunchy, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, et voilà, j'ai fait 50% quand même de ce Memorial Aikin. J'ai perdu contre Anand et le reste c'était des nuls, pas ennuyeuses, mais bon, c'est très dur de... C'était à très haut niveau, c'est très dur de créer. Si on vraiment dans l'ouverture, vu que la technique est à peu près la même, finalement, entre les joueurs, et que c'est dur de créer des différences, si dans l'ouverture on n'a pas d'avantage, si la position est à peu près équilibrée, c'est très dur de créer des différences. C'est ce que j'ai remarqué.
Donc là, c'est un pas supérieur. C'est-à-dire que c'est dès les premiers coups,
il
faut...
Oui, il faut mettre de la pression. C'est très dur après de gagner. Battre quelqu'un comme Gelfand sur un simple technique, c'est quand même...
Ça marche plus.
Non, ça marche pas. Je sais pas si ça a déjà marché.
C'est-à-dire que ce qui marche habituellement face à des joueurs moins forts, là, ça marche plus.
Voilà, exactement.
Et là, on peut pas se permettre d'avoir des coups faibles dès le premier coup, quoi. Ouais. Même le premier coup, E4, D4 ou C4 ou Cavalier F3, il faut y réfléchir, quoi.
Oui, bien sûr. Il faut savoir où on va amener... notre adversaire, mais et voilà, et donc j'ai joué après le Grand Prix donc FIDE qui se passait à Paris. Bon, là j'ai pas très bien joué, mais j'ai quand même battu Kelchuk. J'ai fait quelques bonnes parties, une partie que je regrette vraiment contre Ivanchuk, j'étais complètement gagnant et j'ai essayé d'échapper, j'ai même perdu à la fin. Donc ça c'est dommage, parce que contre ce genre de légende vivante, c'est pas mal de gagner, mais bon. Bah. Ok, c'est comme ça, c'est intéressant de jouer évidemment à très haut niveau contre les meilleurs, c'est évidemment beaucoup plus motivant et intéressant.
Voilà, donc on a fait donc ta carrière depuis 81, ta naissance à Dax et 2014, on a vu tout ton historique. Alors on va faire une première pause dans cette émission, Laurent, si tu veux bien, et on va dans une deuxième partie, on parlera un peu plus de ton actualité, comment ta saison se déroule. Et puis on prend un peu de recul sur l'organisation du circuit et ton avis sur quelques structures comme la FIDE, l'Association of Chess Professionals, ce genre de choses. Et en attendant, on va se faire une petite pause. Alors, est-ce que tu sais comment sont les musiques sur fréquence diagonale ?
Pas encore, mais je vais le découvrir.
Elles sont sous licence libre.
D'accord.
Voilà. Donc on se laisse. Je vous laisse tout de suite sur cette pause musicale. On se retrouve juste après avec Laurent Fraissinet. Et nous voici de retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec le grand maître international Laurent Fraissinet. Alors, dans la première partie, donc on a vu ta carrière, Laurent, donc riche, hein, plein de titres, deux vice-champions, mais aussi dernièrement deux champions, ça se rapproche.
Oui.
Et on a vu un peu tout ça, toute ton évolution et les résultats marquants. Et puis alors, on va maintenant creuser un peu plus le présent pour voir comment se déroule finalement une saison de grand maître international. C'est quoi ton calendrier dans l'année, quoi. Si tu pouvais décrire par exemple cette saison, comment ça se déroule. Alors, tu as parlé de beaucoup de matchs par équipe notamment.
Voilà.
Et puis je suppose quelques Open, quelques tournois et évidemment, éventuellement le championnat de France qui doit être aussi un des moments forts de l'année, quoi.
Exactement, t'as à peu près, t'as assez bien résumé. Donc oui, il y a beaucoup de compétitions par équipe. Ensuite, en général, j'essaie de jouer.
Donc ça, c'est quoi les week-ends? Ça se passe? Comment ça se passe?
Oui, en général, c'est plutôt les week-ends ou alors le top 12, c'est sur une phase en 10 jours.
D'accord. Donc là, c'est les clubs en fait d'échecs qui ont des équipes de 8 joueurs, c'est ça? 9
voilà,
joueurs.
C'est ça, 8 joueurs.
Voilà, 8 joueurs et qui se rencontrent entre clubs comme voilà, ça. Et il y a un championnat et à la fin, il y a bien sûr un titre.
La Bundesliga se joue sur les week-ends. Le championnat d'Espagne se joue en une seule fois, comme le championnat de France.
Ouais, c'est vrai. Ouais,
ça dépend des formules.
D'accord.
Donc je joue pas mal par équipe. Là, je vais faire en mars, début mars, le championnat d'Europe.
Ouais.
Voilà, j'essaie de faire régulièrement parce que
des clubs là.
Non.
Non.
Championnat d'Europe individuel.
Voilà, faut préciser. Parce que sinon, et c'est combien de rondes? C'est combien de rondes?
11 rondes. 11 rondes.
11 rondes et combien de joueurs à peu près? Quelques centaines.
Ah oui, 400 dans 150 grands mètres. Donc c'est voilà. très dense.
Ouais. Et c'est où alors? Ça se passe où ça?
C'est en Arménie.
En Arménie, d'accord.
Voilà, donc ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas... J'étais allé la dernière fois en 97. Donc...
Alors ça, c'est le paradoxe, parce qu'évidemment, l'Arménie ne fait pas partie de l'Union Européenne.
Oui.
Hein, je crois pas.
Non.
Et c'est plutôt russe, d'ailleurs. Encore, ça fait partie de la Fédération de Russie ou...
Non, c'est anciennement Union Soviétique, mais c'est indépendant.
Ça y est plus, d'accord. Donc c'est indépendant. Ouais. Ah, bon, je ne sais plus, moi, parce que là, on est loin. Mais sauf que je sais que c'est la patrie, de, bien sûr, de Petrosian et de Kasparov aussi, d'ailleurs. Mm. Mais donc là, par contre, pour les échecs, c'est considéré comme Europe.
Voilà, tout à fait.
La Russie aussi, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Donc là, c'est le...
C'est tous les pays, tous les pays d'enseignement soviétique qui sont...
Ils sont considérés comme Europe pour les sports, d'ailleurs, même pour le foot, ça marche.
Bien sûr, ouais. Dans tous les sports, oui.
Voilà. Donc là, en Arménie, le championnat d'Europe, donc en mars. Donc ça, c'est un grand tournoi où là, par contre, il n'y a pas de match par équipe pour toi, c'est le tournoi qui prime. Hein.
Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est de... Il y a 22 places pour la Coupe du Monde.
Voilà.
Voilà, que j'ai joué l'année dernière, qui est tous les deux ans. Voilà, donc ça fait maintenant un petit bout de temps, j'ai dû en jouer 4 ou 5 déjà.
Alors explique-nous ce que c'est la Coupe du Monde. Hein. Si tu te qualifies, ça
voilà, la Coupe du Monde, il y a 128 joueurs, donc de différents continents.
Faut être qualifié, donc.
Voilà, faut être qualifié, donc à travers ce championnat d'Europe ou à l'Elo.
Un peu comme les anciens interzonaux pour le championnat du monde.
Voilà,
en fait.
c'est un peu ça, donc à part qu'il y a beaucoup plus de joueurs, donc il y a 128 joueurs.
Ouais.
Et ensuite, c'est élimination directe. Et là, en deux parties, aller-retour. Donc,
c'est bien cette formule est pas mal.
S'il y a un partout, cette formule est pas mal à mon avis pour désigner justement les candidats, mais pas pour désigner le champion du monde. Évidemment, pour désigner le champion du monde, à mon avis, il faut un match.
Il faut un match plus long.
Donc je pense que c'est assez quand même, parce que pour se sortir de ce tournoi et arriver dans les deux derniers, voilà, comme Kramnik et Andreïkin, cette année, en général, celui qui gagne, c'est un très fort joueur. Il y a eu Kramnik, il y a eu Zwidler, il y a eu Gelfand. Il n'y a aucun problème sur le... Il y a eu Aronian avant. Donc il n'y a aucun problème sur le niveau du joueur. Celui qui gagne est toujours un joueur extrêmement fort dans les meilleurs joueurs du monde. Et voilà. Et ces deux places, donc si on arrive en finale, on se qualifie pour le tournoi des candidats, là, qui va avoir lieu en mars aussi.
Oui.
Voilà,
tournoi des candidats, cette fois au titre mondial.
Voilà. Tournoi des candidats. Voilà, celui qui gagne le tournoi des candidats, donc défie le champion du monde. Et voilà. Donc je pense que le système est assez... Enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Donc, j'essaye moi de me qualifier tout simplement pour la Coupe du Monde. Finalement, c'est plus un tournoi de qualification qu'un championnat d'Europe, même si le titre, j'aurais bien pris le titre il y a deux ans. Et voilà. Donc, si je me qualifie cette année, c'est assez peu probable que je joue l'année d'après. Parce que le but principal, vraiment, c'est de se qualifier. Les prix n'ont rien d'exceptionnel.
Ouais.
Donc, voilà.
C'est surtout d'aller prendre des places. Quoi.
Voilà, c'est d'aller prendre la place pour la Coupe du Monde, qui est quand même une compétition très motivante où on peut essayer d'aller loin. Je ne suis jamais allé très loin, malheureusement. J'ai fait 3e tour au maximum, donc c'est vraiment pas terrible pour l'instant. Mais je désespère pas. On continue. On continue la bataille. Je vais faire ça. Ensuite, il y aura du top 12. Ensuite, je vais aussi jouer en Corse. Je vais jouer en Corse. Je vais jouer un tour rapide et ensuite un tour de partie longue, ce qui est très rare. Vraiment, je l'ai fait.
Là, en début d'été, c'est ça le tour de partie longue?
Non, c'est en mai.
En mai.
En mai, voilà, je fais pas grand chose en avril. En mai, voilà, je vais faire. En mai, j'ai un planning très chargé. J'ai un ou deux jours entre chaque tournoi. Donc, j'ai deux tournois en Corse. Ensuite, je vais à Malmö.
Ouais.
Je joue un tournoi fermé qui est.
D'accord.
Qui est assez renommé depuis de nombreuses années. Ensuite, je vais au top 12. Donc, top 12 qui est fin mai. Je sais pas. Ensuite, peut-être en août. Oui, en août, il y a les Olympiades. Voilà, début août.
Début août et après championnat de France.
Oui, c'est ça, le problème.
Dur,
donc
ça,
c'est, ouais. C'est pas sûr que je joue.
Ah oui, tu vas peut-être te réserver pour l'un ou pour l'autre.
Hein. Voilà, exactement.
C'est quoi la priorité dans ce cas-là? C'est les Olympiades.
Oui,
bien sûr, pas le choix.
Ouais. Non, ouais, pas photo. Ouais.
La FFE, elle aimerait pas que que tu te réserves pour le championnat de France.
Non, oui, évidemment. Donc, mais probablement, je vais faire les deux quand même. Et ensuite peut-être le championnat d'Espagne et quelque chose en fin d'année. Il y a des coupes d'Europe, je sais pas encore vers la fin de l'année, mais bon.
D'accord.
Après, c'est vrai que j'essaie de privilégier. J'aime bien les tournois de partie rapide. En plus, je pense que c'est vraiment l'avenir si on veut. Parce que même pour moi, c'est vrai, regarder une partie longue sur Internet, je tiens pas pendant 4 heures.
Oui. Et
qui peut dire qu'il tient devant son écran pendant 4 heures,
même
s'il y a des commentaires sympathiques.
Ouais.
C'est dur, 4 heures. Est-ce qu'un rapide, je pense que c'est tout le monde peut regarder, et j'ai l'impression que le spectateur prend plus de plaisir et le joueur aussi. Enfin, moi, en l'occurrence. Je prends beaucoup plus de plaisir.
C'est agréable de voir quand on est suivi aussi.
Oui, aussi, mais c'est vrai que même dans le jeu.
Ouais. Tu as fait le tournoi de Cap d'Agde aussi d'ailleurs, non? Tu l'as déjà joué?
Oui, j'ai déjà joué.
Cette année peut-être pas.
Malheureusement, oui, j'ai pas pu jouer cette année. Ils m'ont invité, mais peut-être l'année prochaine, oui.
Donc là aussi, c'est un beau tournoi.
Bien sûr, j'aime beaucoup. En plus, l'ambiance est extraordinaire.
Voilà, d'accord. Donc on voit que c'est assez riche, hein. T'as pas trop le temps de te reposer. Puis évidemment, entre deux tournois, il faut absolument que tu retravailles ton fond de jeu, c'est-à-dire les ouvertures.
Bien sûr, il y a des entraînements avec d'autres joueurs, évidemment, je collabore. Là, j'étais à Vishkanzi pendant 3 semaines avec Richard Rapporte, qui a pas très bien réussi, qui est un jeune prodige hongrois.
Ouais.
Voilà, donc j'ai commencé. C'était mon second an d'ailleurs, mais au Marie-Lekin. Donc ce genre de travail avec d'autres joueurs. Et donc pas vraiment le temps de se reposer, oui, c'est vrai.
Il faut que tu maries ça maintenant aussi avec une vie de famille.
T'as
une fille, hein, je crois bien.
J'ai deux filles.
T'as
deux filles
Donc il faut s'occuper. Hein,
voilà, exactement. Donc c'est pas évident. Bon, j'essaie de concilier au mieux.
Il faut jongler, quoi, là.
Ouais, voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre parce que c'est vrai que le calendrier est assez chargé quand même.
Ouais.
Et donc, j'ai pas. Finalement, je cherche pas de tournoi par moi-même. J'attends. J'ai cette chance de pouvoir attendre des invitations quand elles viennent.
Alors, c'est sur ton calendrier, on voit comme il est effectivement chargé, puis comme tu dois faire aussi des arbitrages, on le voit, des fois tu es invité, mais tu peux pas y aller parce que tu as fait d'autres choix, ou tu prépares autre chose, donc tu joues aussi plusieurs coups à l'avance d'une saison à l'autre, parce qu'en fonction de tes choix, évidemment, ça va impacter tes prochains tournois, là où tu es qualifié, là où tu n'es pas qualifié, et donc tout ça fait qu'il faut anticiper aussi dans le calendrier, et pas uniquement quand la partie se joue. Et alors, donc forcément, on en arrive à un point important, c'est l'organisation du jeu d'échecs. Je voulais qu'on en parle aussi, parce que ça fait partie de l'environnement dans lequel tu dois te mouvoir en tant que meilleur joueur du monde, en tant que membre des meilleurs joueurs du monde. C'est évidemment les entités qui maintenant gèrent le jeu. Alors évidemment, il y a la Fédération Internationale des Échecs, la FIDE, hein, que les joueurs d'échecs connaissent. Eh bien, qu'il y a une certaine organisation qui fonctionne comme elle fonctionne, hein, c'est-à-dire un peu KNK parfois, parfois mieux, bon, qui a l'air de se structurer depuis quelques années un peu mieux, hein, ça a l'air d'être un peu mieux que ce que ça a été pendant quelques années avant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la Fédération Internationale et de comment elle gère tu as fait quelques petites remarques tout à l'heure.
Je pense qu'ils s'intéressent à une seule chose, c'est le haut niveau,
ouais.
Et qu'ils font ça assez bien. finalement, il y a ces grands prix, ça c'est juste, cette Coupe du Monde, ce tournoi des candidats. Bon, la seule reproche qu'on peut leur faire, c'est que le tournoi des candidats, il y a Kantimansisk, c'est vrai qu'ils ne vont pas dans des villes.
Oui, la ville russe, c'est ça.
Kantimansisk, c'est en Sibérie. Donc moi, j'y suis allé 5 fois là-bas. C'est froid. Bon, il y a un gouverneur qui aime bien les échecs, mais à part lui, il n'y a pas beaucoup de spectateurs et pas beaucoup de publicité autour des échecs. Bon, même si c'est vrai, on peut dire que les tournois d'échecs sont formatés maintenant pour l'Internet, c'est ce qu'ils essaient vraiment de faire. Vu le Grand Prix à Paris, là, en fait, qui n'était pas vraiment un Grand Prix à Paris, vu qu'il a été joué à Elancourt au siège de la Fédération française.
Oui.
Donc, en fait, c'était vraiment. Ils ne voulaient pas de spectateurs dans la salle. Enfin, c'était pas interdit au public, mais il n'y avait pas de chaises. C'est formaté pour Internet. Il y a une caméra sur chaque échiquier. On peut voir. En fait, on est beaucoup mieux à la maison pour suivre que sur place. Donc, c'est ça l'idée. Donc, ils font ça. Ils font ça plutôt bien, je trouve, à part évidemment les endroits. Bon, ils trouvent pas de c'est toujours du mécénat, il n'y a jamais de sponsors privés, ils n'arrivent pas à intéresser la masse, évidemment. Mais bon, on peut pas tout avoir. Après tout, Elioumenov, c'est vrai qu'il a mis beaucoup de sa poche aussi.
Tu parles du président de la fédération, oui. Elioumenov.
Voilà, Elioumenov. Ouais. Mais alors, le problème, c'est que le développement pour les pays et tout ça, alors là, ils font absolument rien.
Le développement de base,
ouais,
ils font quasiment pas.
Ça les intéresse pas du tout. Et puis l'image du président, quand même, qui pose un problème, où on tape, je m'étais amusé à ça, taper Kirsten Imginov sur un moteur Google, on voit Kirsten Imginov, la première chose qui vient, c'est extraterrestre. Voilà, parce qu'il a parlé, et après, il y a Kadhafi. Parce qu'il a joué avec Kadhafi.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc c'est un système opaque qui marche comme ça depuis 19 ans, quand même. 19 ans, il est.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation de mandat.
Voilà, depuis 1995, bon.
La démocratie est à revoir.
Là. Ah oui, plutôt, oui. Plutôt, en plus, ce système de un vote par pays, qui quand même qui favorise.
Oui, c'est-à-dire même un petit pays comme Malte va avoir une voix.
Voilà, alors que un pays.
Alors que autant que la Russie, quoi.
Voilà, exactement. Un pays comme Malte où peut-être il y a 3 licenciés, enfin, il y en a plus.
Ouais. Ou les îles Vierges britanniques.
Voilà, aussi. Exactement. où il y a 10 licenciés, autant finalement une voix comme la Russie. Donc,
ou la France qui en a 64 000. Quoi.
Voilà, c'est absolument injuste. Et ça.
Ça aide pas, quoi. C'est un peu comme à l'ONU. Hein. L'ONU, c'est un peu ça, je crois, d'ailleurs, aussi. Je crois que c'est un peu pareil. Sauf qu'à l'ONU, il y a un conseil de sécurité qui, du coup, empêche un peu n'importe quoi de se faire. Mais sans ça, je crois que c'est un pays, une voix.
Exactement. Donc là, on a une chance de... Il y a les élections à la FIDE en août, à Tromsø.
Oui, ou là d'ailleurs je crois que Kasparov encore
va revenir, c'est ça. Kasparov est en course et.
C'est pas la première fois parce que il a.
Non, c'était Karpov la dernière fois.
Oui, mais il a soutenu.
Kasparov, oui, bien sûr. Mais en termes d'image, rien qu'en termes d'image,
ouais.
Je pense que d'avoir Kasparov.
Mais t'avances pas trop en politique, hein, parce qu'après ça peut se retourner contre toi.
Non, mais moi je
donne. Reste neutre.
Non, moi j'aime bien donner mon avis. Je prends mes responsabilités.
D'accord,
en tant que joueur. Oui,
non, c'est la candidature de Kasparov qui se présente.
Ah oui, c'est très clairement pour l'image du jeu d'échecs. Je veux dire, par exemple, le président de la Fédération française des échecs est reçu au ministère, il n'amène pas Ilyuminov avec lui, évidemment, il amène Kasparov avec
lui.
Évidemment, rien que pour ça. En termes d'image, c'est tout le monde, et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a tous des amis qui joue pas aux échecs, et tout le monde connaît Kasparov. Il a une image extraordinaire, en plus c'est l'opposant de Poutine, donc ici il a vraiment une image extraordinaire. Donc je pense que c'est une vraie chance d'avoir une personnalité comme ça, plutôt que quelqu'un qui nous raconte, qui nous parle d'extraterrestres et de...
Et il faut reconnaître à Kasparov, il est vrai, qu'il a toujours, et même quand il était joueur, fait énormément pour essayer de populariser le jeu.
Bien sûr.
Alors parfois ça a été maladroit, parfois il n'a pas forcément fait ce qui aurait pu peut-être être plus efficace, mais on ne peut pas lui nier le fait qu'il a dépensé énormément, et il continue à le faire. Quand il a l'occasion, il est venu effectivement en France plusieurs fois pour aider à la promotion du jeu, pour aider au développement du jeu dans les activités scolaires, etc. Et là, bon, c'est vrai que si... D'ailleurs, on a eu un des meilleurs présidents de la Fédération internationale des échecs, était un ancien champion du monde, c'était Max Heuve, qui d'ailleurs, je crois, c'était bien lui qui était, il me semble bien, à vérifier, mais je crois bien que c'était lui qui était président lorsque Fischer... a fait en 72 hein, qui a fait le championnat du monde.
Tu vois, on est absolument d'accord, donc finalement toi aussi tu soutiens Kasparov, qui n'est pas parfait, qui a des défauts, qui est un peu impulsif parfois, voilà, mais qui n'a pas de défauts, mais qui serait un bien meilleur président. Pour moi c'est une évidence. En plus il a monté sa fondation Donc il fait dans les écoles, et voilà, ouais. Moi je pense que c'est la base du développement, voilà, et surtout en France où il n'y a pas de, vraiment de culture échec, où ça doit passer par le scolaire et les écoles, voilà, moi je vois maintenant, finalement je suis, parce que ma fille, ma grande fille a 7 ans, et je vois tous les parents ils rêvent de mettre leur enfant aux échecs, on a une image extraordinaire, en France en tout cas, on a une image extraordinaire, et pour les enfants je pense que c'est excellent, vraiment, pour le développement de l'enfant, c'est vraiment, et donc c'est un outil vraiment pédagogique aussi pour les professeurs qui peut être très intéressant. Donc je pense qu'il a la bonne vision des choses de développer voilà, par la masse, par les scolaires.
D'accord.
Je pense que c'est la bonne vision des choses.
D'accord, très bien. Et il a aussi, on peut le dire aussi, il a sorti une anthologie des champions du monde d'échecs.
Tout à fait, oui, c'est bouquin.
Qui est extraordinaire d'ailleurs. Bon, c'est en anglais malheureusement, c'est pas encore traduit en français. Ouais. Mais bon, c'est quelque chose, c'est rare qu'un champion du monde sorte une anthologie comme ça. Je crois que c'est le premier à le faire, véritablement, en tant que champion du monde. Mais c'est bien, il a retracé depuis Stenitz, en gros, tous les champions... jusqu'à lui-même.
En parlant de ces matchs contre Karpov, qui est vraiment, qui sont les, enfin, à mon sens, c'est vraiment les meilleurs bouquins.
Ouais. Il y en a un entier sur Fischer, d'ailleurs. Ça veut dire à quel point il estime lui aussi, d'ailleurs, Bobby Fischer, puisque il y a un volume entier, alors que les autres, il y a plusieurs champions, je crois, par volume, mais là, pour Fischer, il n'y en a qu'un seul, tellement il avait à dire dessus. donc ça, c'était sur la FIDE, donc tu nous as éclairé sur ton point de vue là-dessus. Bon, pas très bien pour le haut niveau, l'image du président un peu...
Très bien, mais enfin, quand même, c'est un peu dommage de toujours...
Pour être mieux, quoi.
C'est-à-dire, il compte toujours sur le sponsoring, sur le mécénat, voilà, ce qui est dommage, parce qu'on peut, avec notre image et la masse de joueurs qu'il y a sur Internet qui suit, on pourrait, j'en suis certain, on pourrait intéresser du sponsoring privé.
Ben on peut, on l'a montré. Hein. Et en France, il y a du monde qui vient voir les matchs. Rappelle-toi, quand on avait fait à Bordeaux le Grand Prix aussi, on a eu...
Bien sûr.
On a des centaines de spectateurs qui peuvent se déplacer. Donc, on n'a pas, on n'est pas obligé non plus de remplir des stades de 80 000 places, hein, je veux dire, pour exister. Donc,
Et alors, il y a des centaines de spectateurs, mais c'était sur place, sur Internet.
Oui, bien sûr.
Je ne sais pas, c'est ce qu'on a en dizaines de milliers.
Et puis, ça peut être dans la durée aussi.
Bien sûr.
Au fil du temps. Alors... un autre point qui nous intéresse aussi avec toi, c'est bien sûr de parler d'une autre structure internationale qui est récente cette fois, qui a été créée vraiment récemment, et qui est une réaction des joueurs professionnels qui ont voulu créer une sorte de fédération un peu à eux, parce qu'ils sentaient que parfois la FIDE, c'était pas forcément leur intérêt direct qui était pris en compte. C'est l'Association of Chess Professionals, l'ACP. Alors tu connais l'ACP, sans doute.
Alors je me suis inscrit, j'étais un des premiers inscrits, un des 10 premiers à tout de suite adhérer. Oui, évidemment, parce que juste quand il y a, au début l'idée c'était simplement quand il y a un problème, quand un joueur professionnel, voilà, c'est d'ailleurs la devise, c'est qu'une injustice faite à quelqu'un est une menace pour tout le monde. Voilà, c'est ça, en anglais, la traduction, voilà. Et ce qui est vrai, c'est que donc les joueurs professionnels, comme au tennis, voilà, l'ATP, il faut créer cette association pour défendre les intérêts des joueurs professionnels quand ils se font fouiller.
Et aussi des organisateurs, d'ailleurs, parce qu'on retrouve aussi non seulement les joueurs, mais aussi des organisateurs.
Tous les professionnels, finalement,
semi-pro
autour du jeu d'échecs.
Ouais.
Et voilà, donc maintenant, ils ont créé ce circuit, qui est une excellente idée, voilà, où justement les tournois... adhère à l'ACP et voilà, et à la fin, et d'ailleurs j'y ai joué dans ce tournoi parce que les 16 premiers sont qualifiés, donc j'ai joué à Riga l'année dernière, voilà, la finale du circuit ACP qui était un tournoi de partie rapide, voilà, c'était vraiment très agréable. Bon, j'ai perdu contre Grechuk dès le premier tour, malheureusement, un match qui s'est terminé au blitz, bon, ça n'en reste pas moins une excellente initiative, et je remercie les gens. Il faut savoir que pareil, que Pavel Trégoubov, notamment, s'en est beaucoup occupé. Il a été président pendant de nombreuses années.
Oui, c'est un des fondateurs.
Maintenant, c'est Emile Soutowski.
Oui.
Ils font tout ça bénévolement.
Oui.
Et pour le bien de tous les joueurs pros. Et donc, vraiment, rien que pour ça, on peut être que reconnaissant.
Voilà, donc une association à suivre de près. Si on s'intéresse au jeu d'échecs, bien sûr, il faut suivre aussi, non seulement ce qui se passe à la FIDE, mais aussi ce qui se passe à l'Association of Chess Professionals, l'ACP. Qui compte aussi beaucoup, bien sûr. Alors on va faire, Laurent, une deuxième pause, et puis après, en dernière partie, enfin, on parlera plus particulièrement de la France, hein, parce que là on est parti vraiment dans le mondial comme ça, et puis tu vas nous donner un peu ton avis aussi, on va un peu décortiquer l'avis d'un grand maître en France, on va parler de tes confrères aussi, hein, français, peut-être un peu, et de voir comment tu vois le jeu d'échecs, particulièrement en France, de là où tu joues, c'est-à-dire d'un peu partout dans le monde. Tu vois ce qui se passe aussi en France, hein, quand tu y es, et puis aussi quand tu es à l'extérieur. Donc, une deuxième pause musicale, et on se retrouve juste après pour une dernière partie avec Laurent Fraissinet. Et nous voici de retour dans cette dernière partie de cet épisode spécial Grand Maître International avec Laurent Fraissinet. Donc on a vu hein, dans la première partie un peu toute l'historique de ta carrière. Dans la deuxième partie, on a vu un peu comment tu organisais ton calendrier, notamment cette saison, un peu les tournois que tu vas faire, les matchs par équipe, les choix que tu dois faire entre les Olympiades, les championnats de France, les qualifications à la Coupe du Monde et tout ça. Et puis un peu, on a parlé aussi, bien sûr, des structures internationales, l'Association of Chess Professionals, la Fédération Internationale des Échecs. On avait parlé un peu aussi, bien sûr, du championnat du monde. T'as d'ailleurs à ce niveau-là, on n'a pas cité ton amitié avec Magnus Carlsen, c'est évidemment un ami, en fait, vous connaissez depuis longtemps.
Voilà, exactement. J'étais évidemment ravi quand il a gagné ce titre de manière magnifique face à Anand, où il a complètement dominé le match.
Voilà, oui, c'était un massacre.
Ouais, et puis c'est un excellent ambassadeur, je crois, pour le jeu d'échecs. Je crois qu'on peut pas rêver mieux. Jeune, très populaire et voilà, en plus très sympathique et
qui fait
ouvert.
Parfois la une des magazines de mode aussi.
Voilà, exactement. Qui donne le coup d'envoi à un match de Real Madrid, qui joue avec Bill Gates, enfin qui.
Ouais, c'est pas mal ça. Hein.
Qui est vraiment pour les échecs, je pense vraiment l'ambassadeur vraiment rêvé.
Ouais. Et notamment, alors tu avais non seulement bon, tu es un ami de Magnus Carlsen avec qui tu as joué des tournois aussi, tu as fait des parties, mais tu as aussi secondé un autre champion du monde, c'est Kramnik.
Voilà, Kramnik. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec lui et notamment pendant le championnat du monde face à Anand, qui c'est en 2008 où Anand a joué vraiment été à l'apogée de sa carrière et a joué magnifiquement ce match, et il n'y avait vraiment rien à faire.
C'était face à Kramnik,
donc j'étais dans l'équipe des second ans de Kramnik, ouais. Et Anand a très bien joué ce match, il n'y a vraiment rien à dire, il l'a remporté. Il a vraiment extrêmement bien joué, surtout le début du match où il a pris un avantage de 3 points.
Puis c'était mérité parce qu'Anand, quand même, d'abord, est un joueur extrêmement sympathique, hein, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ouais. Et qui faisait partie des tout meilleurs joueurs du monde depuis longtemps. Bon, il avait gagné le titre de champion du monde de FIDE, je crois.
Oui, voilà, c'était à l'époque de ses knockouts.
Oui, et puis donc il y avait deux champions du monde, oui, le classique, voilà, et le FIDE, et je crois qu'il méritait de rentrer dans la lignée des champions du monde classique.
Oui, on mérite quand on gagne le match. Ouais. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont exceptionnels, qui n'ont jamais gagné le titre.
Ouais. Et là, moi, je pense que Kasparov a eu raison d'insister sur le fait qu'il n'y a pas véritablement de champion du monde intéressant si c'est pas un match face au tenant, un peu comme à la boxe finalement.
Tout à fait.
C'est vrai que c'est aussi la partie mythe du jeu d'échecs. On peut pas rompre avec cette histoire-là. Ce qu'a essayé de faire la FIDE, essayer de rompre avec ça, mais c'est heurté un mur.
Ouais.
Le mur de Kasparov et puis de ceux des champions qui n'ont pas voulu non plus déroger à cette tradition.
Surtout que maintenant, ça sera pas facile, mais ça sera beaucoup moins compliqué pour trouver un organisateur, étant donné le nouveau champion du monde et sa notoriété. Je pense que pour trouver un organisateur, ça sera beaucoup plus simple. Dans des villes, peut-être, ce ne sera pas Elista ou ça sera plus.
Il y aura peut-être plus de demandes pour les prochains.
Je suis sûr.
Ouais. On voulait maintenant dans cette troisième partie, là on finissait un peu cette vision un peu mondiale du jeu par ce championnat du monde, mais revenir un peu maintenant peut-être un peu plus en France, parce que Fréquence Diagonale c'est avant tout le podcast du jeu d'échecs francophone, et particulièrement français, mais aussi francophone, bien sûr, on pense à nos amis belges, suisses, on pense au Dom Tom bien sûr en France, et la France aussi bien sûr, et aux pays francophones en général, mais particulièrement en France, alors... Ton avis nous intéresse aussi, comme on a parlé de la CP ou de la FIDE, c'est ton avis sur un peu comment s'organise le jeu d'échecs en France, la fédération française, les différents championnats de France, donc, que tu as fait à de nombreuses reprises, l'équipe de France aussi, alors non pas ici en tant que résultat, mais en tant qu'organisation, comment tu penses que ça se passe? Bien, pas bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Qu'est-ce que tu en penses?
Non, bien sûr.
Tu es élu à la fédération.
Voilà, je suis élu au comité directeur. J'étais sur la liste de mon ami Léo Battesti. Donc, je pense que sa vision est la bonne. Et ça a marché, notamment en Corse, où c'est extraordinaire. Il y a des tournois, il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui viennent. L'année dernière, il y avait Anand et Ouifan qui sont venus à 3 mois d'intervalle. Dans quel autre pays? Ou dans quelle autre région plutôt c'est possible.
Ouifan
qui est la championne du monde
féminine,
qui est un vrai phénomène aussi. Ouais. Donc voilà, donc ce développement à travers les scolaires, je crois qu'il faut créer on en parlait tout à l'heure, cette culture échec, et ça passe à travers, je crois.
Oui, à la fois
les scolaires, les enfants, et ouais. Voilà, il faut.
Scolaires, enfants, les scolaires, essayer de voir comment on peut. Bien sûr, offrir le jeu d'échecs aux enfants qui le veulent, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont intéressés, d'autres moins, mais au moins que ça soit possible, étant donné que c'est quand même une activité effectivement à valeur ajoutée, et en couplant ça, comme c'est fait en Corse, effectivement, aussi avec des événements porteurs.
Évidemment, et même si on n'en fait pas des joueurs, peu importe, en forme nos futurs spectateurs qui reviendront peut-être plus tard, ou comme Filatov qui a appris à jouer à l'école, voilà, André Filatov qui a sponsorisé notamment le Memorial Aikin, qui a réussi dans les affaires et qui a sponsorisé aussi le champion du monde. Donc voilà, donc on intéresse tout le monde à ce jeu-là et finalement même s'il ne reste pas, c'est même s'il n'en reste que 5%, disons, des gens touchés, on forme nos futurs spectateurs et peut-être qu'ils vont revenir plus tard vers les échecs. Parce que c'est dur de s'intéresser aux échecs à 40 ou 50 ans si on n'y a jamais joué. Mais si on était formé avant, il y a une chance que ces gens reviennent vers notre jeu. Parce que je pense que...
Surtout que le jeu, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer.
Exactement.
Donc, d'accord. Donc ça, c'était...
Moi, le but de mon engagement, c'était ça. Et en d'un autre côté, le bémol, c'est que j'avais pas trop le temps de m'en occuper. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les joueurs de haut niveau ont tendance à se plaindre. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de truc, et il n'y a rien, et on ne nous écoute pas, et tout ça. Donc, c'est un peu le discours. Et donc, évidemment, là, une fois, on me propose donc de me faire le porte-parole. Finalement, moi, majoritaire, je dirais, si Léo était président, j'aurais été évidemment le porte-parole des joueurs de niveau, essayer de faire ce relais entre la fédération et les joueurs de niveau, parce que finalement la fédération a des objectifs que pas toujours les joueurs de niveau comprennent, et les joueurs de niveau ont des objectifs que la fédération ne comprend pas toujours, donc c'est pas simple d'être le relais, et je pense que c'est dans tous les sports pareil, où évidemment c'est une fédération de clubs, donc faut s'occuper des clubs, de tous les licenciés. Tous les joueurs de haut niveau ne comprennent pas forcément ça, donc les objectifs. Donc voilà, moi je voulais prendre du temps au lieu de râler dans mon coin à dire il faut faire ça, ça et ça, mettre les mains dans le cambouis et essayer d'arranger les choses, de créer un dialogue, voilà, d'être un peu cette passerelle entre les joueurs pros. Pas seulement évidemment l'équipe de France, les joueurs pros, quels qu'ils soient, parce que je pense que je connais quand même. Ça fait 15 ans que maintenant j'y suis, joueur d'équipe de France, donc je pense que je connais, j'ai joué pas mal de tournois, donc je connais les problèmes, et comprendre aussi cette vision de la fédération envers les joueurs. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait de quelques voix. Bon, la liste opposée donc menée par Diego Salazar, je partage pas sa vision, mais bon, moi je suis pas sectaire, hein, je souhaite bonne chance.
Je souhaite
qu'ils réussissent. Bon, pour l'instant les résultats ne se font pas trop sentir, mais bon, il y a 4 ans pour y arriver, on fera le bilan dans 4 ans. Et voilà, donc je suis resté à ce comité directeur, voilà, j'ai participé à 2 comités directeurs, donc j'essaie d'apporter ma vision, bon, même si j'ai pas l'impression d'être toujours écouté, ce qui est un peu, à mon avis, un peu dommage, vu que je suis vraiment, je sais pas, en fait, j'essaie d'être objectif et constructif. Voilà.
D'accord. Et donc un peu la politique alors.
Non, mais c'est pour moi, c'est, bon, je sais pas. Oui, c'est la politique, mais j'aime pas la politique parce que c'est au sens noble du terme, oui.
Oui,
d'accord.
Bien sûr,
parce que je défends mes idées. Voilà, je suis là, je suis complètement, c'est complètement bénévole évidemment. Et donc voilà, je vais là-bas et j'essaie de donner. Et je m'intéresse finalement à d'autres sujets que le haut niveau.
D'accord. Alors, il y a quand même des événements, il y a des choses nouvelles hein, en France que je trouve extrêmement intéressantes. Alors, c'est... tu as parlé du développement, évidemment, en Corse. Bon, il n'y a pas que la Corse. Il y a d'autres régions qui progressent aussi en termes de licenciés, en termes d'activité. Et alors, notamment, il y a une nouvelle activité qui se déploie. Alors, sans doute aussi avec l'aide du sponsor de la fédération, maintenant, la BNP, aussi, mais c'est les cadences blitz et rapides qui étaient peut-être moins mis en avant. Hein, il y a encore 10 ans de ça, c'était pas forcément à l'ordre du jour de la fédération. Et maintenant, c'est devenu, alors sous l'impulsion de Jean-Claude Moin, de Léo aussi, Battesti, puisqu'en Corse, il y a pas mal de tournois rapides, ne serait-ce que le Grand Prix de Corse. Mais il y a aussi maintenant le championnat de France rapide et le championnat de France blitz. Ça, c'est une nouveauté, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, ou il y a 15 ans, bon, c'est assez récent, quoi.
Moi, j'ai été champion de France rapide et blitz.
Oui, et en quelle année?
2009, 2010, voilà. C'était pas...
Donc c'est pas mal ça, c'est nouveau.
Non, puis, bien sûr, c'est très bien. En plus, c'est vrai qu'il y a toujours un certain succès.
Parce que ça se fait sur un jour, ça. Donc,
oui, ça se fait sur un jour, il y a beaucoup de monde à chaque fois.
Voilà, c'est
donc,
énormément de joueurs.
Donc évidemment, il faut encourager ce type de manifestation.
Tu vas le jouer d'ailleurs
Malheureusement, je vais au championnat d'Europe, donc c'est pas possible.
Ah oui.
Ça commence... Enfin, ça va pas avec les dates. Donc,
à la semaine prochaine, puisque là, on est le 19 février, c'est le 1er de mars.
Voilà, donc ça commence le 3 là-bas, et donc je pars le 1er. Donc malheureusement, j'aurais joué, sinon très probablement.
D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a aussi le challenge, hein, tout le long de la saison. Là, il y a des tournois de blitz maintenant qui comptent pour le classement, avec une petite finale à la fin.
Bon, non, bien sûr, c'est vraiment une excellente idée. Et puis ça, l'idée, je crois que c'était pour les clubs d'avoir... de recréer un lien avec les joueurs, parce que c'est tellement facile maintenant de s'asseoir, on doit lutter face à Internet,
ou
finalement c'est tellement facile, on se met devant son écran et on joue.
Oui, mais c'est pas pareil, parce qu'on peut tricher à la maison.
Ah non, c'est pas le problème de la triche, surtout c'est beaucoup plus simple, parce qu'il faut aller au club, peut-être que c'est un peu loin.
Mais c'est pas pareil d'avoir l'adversaire en face.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis le stress de la pendule est pas le même non plus, parce que quand on joue ordinateur, on a la souris, donc on peut préparer le coup. Donc c'est quand même pas le même jeu, c'est pas pareil. Et puis. Je crois que moi aussi j'avais pouvé m'inquiéter au début de ça, mais je me rends compte qu'en fait on joue plus peut-être sur Internet pour s'entraîner, mais il y a toujours l'épreuve du tournoi physique réel, disons, qui sert de qui en fait finalement on se sert du net pour aller être meilleur sur les vrais tournois. Mais ce qui compte quand même, c'est la preuve du vrai tournoi.
Pour avoir fait un petit peu pendant la campagne, je suis allé un peu à Bordeaux, en Loire-Atlantique aussi. Et en Bretagne, et c'est vrai que c'était une demande des clubs, parce que finalement ils se rendaient compte vraiment que l'internet faisait beaucoup de mal aux jeux en club, et finalement
faut s'adapter. Donc
voilà, donc c'était très bien d'organiser ce type d'événement très convivial, avec une petite finale, des points, voilà, un petit classement, voilà, c'est ce qui plaît. Donc je pense que c'est une excellente chose. Et puis c'est vrai que le format blitz ou rapide permet de jouer en une journée, donc même si on reste quand même, là j'ai vu une étude sur ChessBase, on reste le pays où il y a le plus de parties comptabilisées pour le classement FIDE, la France,
de classement longue, de parties longues.
Voilà, donc c'est là où il y a le plus de tournois, le plus de parties comptabilisées, donc ça marche aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre, évidemment.
Donc maintenant, trois cadences. Alors
il y a aussi très très beaux tournois comme Capelle-Lagrande, qui est une institution
que tu as joué plusieurs fois.
Probablement
déjà.
J'ai joué deux fois, voilà. Bon, maintenant je suis j'ai d'autres choses à jouer. Là, c'est pas, par exemple, c'est pendant le championnat d'Europe, donc malheureusement je peux pas trop jouer. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est un tournoi je fais pas trop d'open, tout simplement parce que j'ai des tours fermés qui sont souvent plus intéressants, où je vais jouer des joueurs plus forts. Voilà, donc c'est la raison est très simple à comprendre.
Mais ça t'arrive encore de faire des open?
C'est extrêmement rare.
C'est plus rare, oui, bien sûr. C'est différent, c'est une autre, mais sûr, c'est une autre approche aussi. Hein. Alors quoi d'autre sur les échecs francophones? Comment tu vois un peu là, l'organisation des différents championnats de France, par exemple? Tu as des choses à dire là-dessus?
Écoute, pas tellement, non.
Ça s'améliore au fil des années. Est-ce que tu sens une amélioration? Est-ce que tu sens ou alors un déclin?
En tout cas, en nombre de joueurs, pour le championnat de France jeune, ça augmente.
Ouais.
Mais pour le championnat de France adulte, ça baisse.
Ouais. Mais donc, parce qu'il y a le temps de, il y a l'effet retard. Si ça augmente chez les jeunes, le temps que ça vienne chez les adultes, il va falloir 10 ans.
Oui, aussi, c'est vrai. Et bon, il y a aussi une crise hein, qui est là. Donc,
une crise économique, tu veux dire.
Oui, une crise économique qui est là. Donc, c'est pas facile de poser un jour de vacances au mois d'août,
ouais.
Et d'aller dans un endroit. Mais c'est vrai qu'on intéresse quand même des villes. Donc, il faut créer, je crois... un événement plus attractif de ce championnat de France, faire plus de manifestations, peut-être une meilleure retransmission aussi sur Internet, parce que finalement je crois que c'est le rôle aussi d'une fédération, c'est de même les gens qui peuvent pas qui peuvent pas aller
sur place,
qui n'ont pas les moyens qui peuvent pas aller sur place, qui puissent ça sur Internet. Donc ça fait longtemps que je le dis, il faut faire un spectacle avec des bons commentaires,
ouais.
Des interviews d'après-match de joueurs, enfin quelque chose de vivant et d'agréable à suivre. Et sur place, il faut évidemment apporter plus des tours de blitz, ce genre de choses. Ça a commencé à être...
Ça a commencé, oui, un petit tournoi rapide là, qui est organisé.
Avec la BNP, toujours là, depuis quelques années.
Voilà.
Voilà,
ça permet à quelqu'un qui veut venir voir le championnat de France d'y aller et de faire quand même un tournoi pendant un jour, tout en n'ayant voir peut-être les grands maîtres, les voir au moins une fois quand même, parce que c'est aussi pour ça qu'on y va, voir jouer les grands maîtres, voir éventuellement quelques amis dans les Open s'il y en a, et de faire en même temps de faire un tournoi. Donc je pense effectivement c'est une bonne formule d'avoir aussi des tournois qui sont en un jour, hein, puisque tout le monde ne peut pas, comme tu disais, effectivement bloquer plusieurs jours.
Et là, c'est vrai que, oui, l'année dernière, j'ai vu que... J'étais pas mal l'année dernière, c'était pendant la Coupe du Monde, donc malheureusement, ça tombait mal. Mais c'est pas évident aussi. Bon, le calendrier de la FIDE, bon, il fait que... C'est pas évident de trouver des dates. Donc, sur ça, je discute pas trop. Mais c'est vrai que les joueurs, par exemple, moi, je pense qu'il faut que les joueurs du championnat de France, hommes et femmes, jouent dans un amphi. et qu'il y ait des commentaires adaptés pour le plus grand nombre. Je pense que ça peut vraiment intéresser. Et là, c'est vrai qu'il joue un peu au milieu des Open. C'est pas le problème des jouer au milieu des Open. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais je pense qu'il faut faire un vrai spectacle à partir du Championnat de France et qu'on rate une vraie opportunité de développer notre jeu.
D'accord, développer une meilleure ouverture vers l'extérieur, quoi.
Ouais,
et alors, un dernier mot peut-être aussi sur les échecs au féminin, hein, puisqu'on a des actions spécifiques sur les filles. Alors, bien sûr, on a normalement, c'est un jeu mixte. Hein, on a eu, d'ailleurs, Marie Sebag a fait le national, je crois bien.
Oui, elle a fait le national mixte.
Mixte l'an dernier. Donc, on a maintenant les meilleures féminines. Bon, c'est un peu une tendance dans le monde, hein, qu'on voit d'ailleurs, hein, qui commence à venir dans le top... dans le top mixte, toute catégorie, hein, qui commence à percer. Hein. On a eu Judith Polgar, bien sûr, ouais. Mais derrière, ça, on voit que ça suit. Il y a Koneru, il y a Oudifan, le niveau des filles commence à monter de façon extrêmement sensible et à venir chatouiller les garçons. Mais il y a des opérations spécifiques pour les filles. Il y a toujours un championnat du monde féminin, il y a aussi un championnat de France féminin. Alors, peut-être sur l'aspect féminin du jeu, est-ce que tu as quelques considérations là-dessus? Est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que tu vois que ça va dans le bon sens? Est-ce que tu as quelques... Est-ce que tu as réfléchi à ça ou...
Pas vraiment, je dois avouer que... Non, je m'en fous pas, surtout que mon épouse est quand même numéro 2 française.
Ben
donc,
oui, c'est ça.
Mais malheureusement, pour elle, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas grand-chose qui est fait. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tournois. Il y a le championnat de France féminin, oui. Il y a le championnat d'Europe féminin aussi. Il y a les... avec l'équipe de France, mais sinon, c'est très dur de jouer des tournois. Il y a encore assez peu de tournois féminins, et c'est dommage, parce que finalement, quand... tout doit aller ensemble, et c'est vrai que si on va si on a les écoles et après que les petites filles qui veulent venir au club se trouvent complètement isolées, ça va pas les encourager, donc c'est un peu dommage. J'ai pas de solution immédiate. Je crois qu'il faut bien sûr encourager la pratique du jeu,
par les filles,
quoi. Ouais, voilà, par les filles, organiser plus de tournois, et voilà, mais il n'y a pas de solution miracle, ça se fera pas du jour au lendemain. Aussi des exemples, certains exemples comme Wifan, je crois que c'est très positif.
Mais même en France, on a quand même des exemples. On a bien sûr Almira Skripchenko, on a Marie Sebag, on a Sophie Millet, on a quand même des féminines maintenant qui jouent à quand même bon niveau. C'était pas le cas il y a 20 ans. Hein,
oui, bien sûr, c'est vrai que le niveau aussi a beaucoup progressé. Donc il faut continuer dans cette voie-là. C'est pas un sujet complètement évident. Il y a aussi un problème culturel. Simplement, quand on arrive dans un club d'échecs, il y a 95% d'hommes, donc c'est pas évident pour une femme de s'intégrer, et ça se fait pas se fait pas du jour au lendemain, donc il faut continuer dans cette voie là et ça passe aussi comme je le disais, parce que à l'âge de 8-10 ans, voilà, il y a autant de filles que de garçons, et voilà, comprendre cette transition,
ça
se réduit, donc essayer de faire au mieux cette transition, voilà. Je crois que ça passe avant tout par les jeunes,
par les jeunes, bien sûr, tout à fait. Puis petit à petit, bien sûr, après, s'il y a un peu plus de pourcentage de filles chez les petits, après les années suivantes, s'il y en a encore un peu plus, petit à petit, ça va s'équilibrer. Mais effectivement, il va falloir peut-être encore 10-20 ans.
Pour que ça s'équilibre complètement, oui.
On vivra peut-être de notre vivant, peut-être, une finale de championnat du monde entre un homme et une femme.
Ah, peut-être, je
ça
sais
pas mal,
ça. Ça serait souhaitable.
Ça serait chaud.
Ou une femme présidente de la République, pourquoi pas.
Oui, encore.
Mais
ça, on le connaît dans le monde. Il y a Angela Merkel en Allemagne. Bon, voilà, donc ça existe déjà.
Oui, ça existe,
mais une championne du monde d'échecs féminine, ça serait un bouleversement, disons, culturel assez colossal.
Mais c'est aussi dommage pour Wifan, le cas particulier, c'est qu'elle joue... pratiquement que des tournois féminins. C'est pas le problème de jouer contre des femmes.
Ouais.
C'est le problème, c'est qu'elle joue contre des joueuses forcément qui sont moins fortes qu'elle.
Ouais.
Alors qu'elle pourrait jouer des tournois mixtes ou masculins où elle jouerait des adversaires plus forts.
Oui, mais il faut peut-être le temps pour les filles et à des générations successives de filles. Peut-être c'est pas Wifan, c'est peut-être plus tard. Maintenant, il y a des joueurs très fortes qu'il faut dépasser. Et quand les femmes elles-mêmes auront un niveau comparable à celui des hommes, c'est-à-dire aux alentours de 2650 ELO ou 2700 ELO, alors là, elles auront pleinement confiance pour aller affronter les hommes.
Oui, mais Wifan, c'est dommage parce qu'elle a 17 ans.
Ouais.
Seulement 17 ans, c'est incroyable. On la voit depuis.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Elle a seulement 17 ans et championne du monde. Elle a plus de 2600 quand elle joue un tournoi à Gibraltar où elle a battu des joueurs à plus de 2700. Donc elle a vraiment un potentiel, mais j'ai l'impression que ça la freine dans sa progression aussi de jouer face à des adversaires.
Alors, peut-être se décider,
moins fortes.
Oui, peut-être que c'est la Chine aussi.
C'est d'avoir des titres.
De garder le titre de championne du monde féminin et de pas forcément aller chercher autre chose.
Bien sûr, non, mais c'est sûr que c'est ça. Parce que. Donc ça, c'est un peu aussi dommage de... Il faut organiser les tournois féminins, mais aussi, aussi jouer des tours mixtes. Enfin, c'est, ouais, il faut trouver un juste milieu qui n'est pas évident.
Peut-être essayer d'encourager les tournois un peu plus de mixité dans les tournois.
Voilà, exactement.
D'accord. Donc, écoute, merci Laurent d'avoir passé ce temps avec nous sur Fréquence Diagonale. Peut-être un mot de fin pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu...
Non, juste, je sais pas. Non, mais je pense que vraiment ça se développement du jeu d'échecs se fera par les scolaires et par les enfants. Et voilà, et le seul. Si j'ai un conseil, voilà, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, voilà, le seul conseil que j'ai à leur donner, c'est de prendre du plaisir à jouer.
Ouais, prendre du plaisir
voilà,
à
ne
jouer.
Pas se mettre de pression. Ouais. Que le résultat, s'ils prennent du plaisir, les résultats viendront ou pas. De toute façon, on peut. Le plus important, c'est vraiment de.
À jouer, à regarder les grands maîtres jouer aussi, parce que.
Exactement. De prendre du plaisir autour de sa passion, que ça reste une passion et que ça reste un plaisir.
Et puis étudier aussi l'histoire du jeu d'échecs, qui est fabuleuse aussi. Moi, je conseille toujours de lire l'excellente anthologie de Nicolas Giffard, la fabuleuse histoire des champions d'échecs, ou son fameux guide des échecs, qui est quand même une masse qu'on ne peut pas oublier aussi sur l'histoire du jeu, qui est quand même un jeu millénaire, hein, donc qui nous marque forcément culturellement. Merci beaucoup Laurent Fraissinet, donc grand maître international. On a passé un bon moment avec toi. On espère te revoir un jour sur Fréquence Diagonale, bien sûr. On va suivre aussi, bien sûr, ta carrière, toujours tes résultats, tes tournois, avec intérêt et passion. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur Fréquence Diagonale. Et en attendant, je vous laisse avec notre générique fétiche Broken Embraces. Au revoir, à bientôt.